Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, nous allons parler dans un premier temps de pollution avec l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, l'APA, une association située à la frontière entre Loos et Lille et qui œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air, qu'il soit d'ailleurs extérieur ou intérieur, puisque cette association s'intéresse par exemple aux polluants que peuvent renfermer les désodorisants par exemple. Alors aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la qualité de l'air en cette période de confinement. L'air extérieur, tout d'abord, s'est-il amélioré? On pourrait le penser suite à la forte baisse du trafic automobile. Pourtant, des pics de pollution sont apparus. Quelles en sont les raisons? Autre questionnement concernant cette fois l'air intérieur. Certaines personnes, par crainte du coronavirus, nettoient leur logement à l'extrême, avec des produits contenant beaucoup de substances nocives pour l'air intérieur. Que sait-on sur ce sujet? Élément de réponse avec Corentin Job, qui est conseiller médical en environnement intérieur au sein de l'APA, interviewé par Julien Maille de Radio Plus.
Corentin Job, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller médical en environnement intérieur et chargé de projet au sein de l'APPA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Quelques mots tout d'abord pour nous présenter cette association, Corentin.
Voilà, alors c'est une association nationale qui a été créée en 58. Moi, je fais partie du comité Hauts-de-France et donc, comme son nom l'indique, on va s'intéresser à tout ce qui est lié à la qualité de l'air, que ça soit à l'extérieur comme à l'intérieur, en lien avec la prévention et la promotion de la santé.
Alors, la qualité de l'air dans notre région, justement, comment est l'air dans notre région à l'heure actuelle? On a pu être assez surpris ces derniers temps de voir que malgré le confinement, on a connu des pics de pollution. Comment ça s'explique, ça?
Bah oui, effectivement. Alors ça, c'est vraiment une problématique qui est complexe, la qualité de l'air. On a tendance à faire des raccourcis en se disant que y a uniquement le trafic routier, par exemple, qui va être à l'origine des émissions de polluants, mais c'est pas forcément le cas en plus, et ça va dépendre aussi de certains polluants. Donc c'est vrai qu'on a observé quelques chutes d'émissions, notamment des oxydes d'azote, parce que là, la source importante d'émissions, ça va être le trafic routier. Forcément, en période de confinement, ça a diminué. Mais il y a d'autres polluants, comme les particules fines, par exemple, où on a forcément un petit peu moins de baisse parce que il n'y a pas uniquement le trafic routier. On parle beaucoup du diesel pour les émissions de particules. Il n'y a pas que ça qui va rentrer en jeu, mais pas du tout. Il y a aussi l'industrie qui peut être émettrice, le chauffage. Et aussi beaucoup les pendages agricoles, cette fois-ci, c'est un peu la période. Donc ça va beaucoup jouer sur les émissions et aussi la météo. Aussi, les conditions météo vont avoir un impact important sur tout ce qui est dispersion de polluants. Et c'est pour ça qu'on observe, malgré cette période de confinement, des pics de pollution extérieure.
Alors, vous l'avez dit, il n'y a pas que l'air extérieur, il y a aussi l'air intérieur qui peut, lui aussi, être pollué, malgré ce que l'on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'on entend par pollution de l'air intérieur?
Oui, c'est vrai, on a tendance à penser qu'on est protégé dans nos logements, dans nos maisons. C'est pas forcément le cas. Alors, faut savoir qu'on est... en fait, on est plus exposé aux polluants à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est plus pollué à l'intérieur, donc que ça soit dans le logement actuellement, pour la plupart des personnes, mais aussi sur le lieu de travail, dans les transports, notamment les transports en commun, on est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jusqu'à 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose importante. Et deuxième chose aussi, c'est qu'on passe en fait la plupart de notre temps dans des espaces qui sont clos. Alors actuellement, c'est beaucoup les logements, mais comme je le disais, il y a aussi les bureaux, la salle de sport, la salle de cinéma, les transports en commun, la voiture. Donc on passe en moyenne 80% de notre temps dans des espaces qui sont clos. Et en cette période de confinement, c'est aussi un chiffre qui peut être majoré, je pense. On passe vraiment beaucoup de temps, une majorité de notre temps, dans des espaces intérieurs qui sont plus pollués que l'extérieur. C'est vrai. C'est pour ça que c'est vraiment une problématique importante sur laquelle on peut essayer de jouer et essayer d'améliorer l'air respiré dans nos logements.
Et donc, de fait, le confinement augmente la pollution intérieure, c'est bien ça?
Bah, augmente en tout cas notre exposition à la pollution intérieure, comme on a tendance forcément à rester confiné, hein, comme on le dit, dans des endroits qui sont clos et où on peut avoir en tout cas des pollutions, des concentrations de polluants plus importantes qu'à l'extérieur. Et forcément, comme on y passe un peu plus de temps, on y est plus exposé.
Quels sont les risques justement pour notre santé?
Alors les risques, ils sont multiples. C'est pareil, il faut pas faire de raccourcis non plus, hein. Mais ça peut aussi. Alors la qualité de l'air intérieur, ça va jouer un rôle sur notre santé, notamment respiratoire, notamment chez les personnes qui sont sensibles, hein, comme les personnes qui sont asthmatiques et toutes personnes qui ont des pathologies respiratoires. Les personnes aussi à risque, bah, les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées aussi. Donc voilà, ça peut provoquer des irritations des voies respiratoires, tout simplement, à long terme, des impacts un peu plus importants. Déclenchement de crise d'asthme, enfin, allergie, etc. C'est vrai que c'est une problématique aussi qui est complexe. Il n'y a pas que la qualité de l'air intérieur qui va rentrer en jeu là-dedans.
Alors, en ce moment, nous traversons une crise épidémique. Les recommandations fleurissent de diverses sources, pas toujours fiable d'ailleurs pour faire face au coronavirus, notamment en ce qui concerne la désinfection. Certains estiment qu'il faut désinfecter les courses, à plus grande échelle l'espace public, notamment à l'eau de Javel diluée. Quelle est la position de l'APA justement sur les bons produits à utiliser pour nettoyer tout ça? Et est-ce qu'il faut aussi justement désinfecter régulièrement et les courses et les sols?
Alors, ça c'est une question assez intéressante, c'est vrai. Alors, en temps normal, il faut savoir que nous, on va déconseiller la désinfection systématique du logement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas grand intérêt. On va uniquement conseiller de désinfecter le logement en période épidémique ou aussi, par exemple, pour décontaminer des moisissures, on peut conseiller l'eau de Javel. Mais sinon, en temps normal, on va déconseiller voilà, de désinfecter le logement parce que on sait que quand on utilise, par exemple, de l'eau de Javel en présence d'enfants, on va favoriser l'apparition d'infections ORL à répétition, hein, comme les otites, etc. Ça, il y a des études là-dessus, etc. Et voilà, ça peut aussi provoquer d'autres effets néfastes sur la santé. Donc, on va vraiment les utiliser avec parcimonie, tout ce qui est désinfectant. Alors là, on est dans une période aussi qui est particulière, hein, forcément. Donc, on va avoir tendance à utiliser des produits désinfectants, que ce soit de l'eau de Javel ou autre désinfectant, de façon plus importante, des fois un petit peu en excès, hein, et de façon pas appropriée. Donc nous, la position qu'on va avoir, forcément là, on va plutôt conseiller, oui, hein, d'utiliser un peu plus des désinfectants que habituellement. Mais nous, on se positionne en fait tout simplement sur les recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc ils ont un site internet avec des fiches de recommandations. Donc concernant la désinfection, qui peut être utile, ça va être de désinfecter, alors pas l'ensemble du logement, c'est pas forcément nécessaire, mais plutôt des objets relais comme les poignées de porte, les poignées de fenêtre, les poignées de tiroir, les claviers d'ordinateur, les téléphones portables, des choses qui vont être régulièrement touchées. Voilà. Là, on va conseiller donc d'utiliser de l'eau de Javel à diluer à un quart pour tout ce qui est objets relais. Notamment, ça, c'est chez les personnes qui dans les logements, il y a des personnes qui sont contaminées. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès. Ça, c'est très important. Faut pas désinfecter tous les jours son logement de fond en comble. Ça, c'est pas nécessaire et ça va être plutôt néfaste pour la santé. On a vu des informations qui sont montées, notamment des centres anti-poison, hein, des personnes qui vont faire des mélanges de produits, etc. Donc ça, c'est important. On le rappelle, il y a des précautions à prendre, hein, notamment avec l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est vraiment à utiliser déjà dans l'eau froide, parce que si vous l'utilisez dans l'eau chaude, l'eau chaude va annuler l'effet de l'eau de Javel Donc ça, voilà, ça a pas vraiment grand intérêt. Et surtout à ne pas mélanger avec d'autres produits ménagers, d'autres détergents qui peuvent être acides et qui vont créer en fait du chlore, du dichlore, du chlore gazeux. Hein. Les personnes qui ont déjà eu affaire à ce gaz s'en souviennent. C'est extrêmement irritant. Donc ne jamais mélanger l'eau de Javel avec d'autres produits. Il faut savoir que l'eau de Javel, c'est un désinfectant. C'est pas un nettoyant. Il faut au préalable nettoyer les surfaces avant de vouloir désinfecter à l'eau de Javel. Mais voilà, globalement, il faut vraiment pas rentrer dans l'excès par rapport à tout ça. Après, pour ce qui est du nettoyage des courses, c'est pareil, on va pas utiliser de l'eau de Javel pour désinfecter les courses. Ça semble un peu excessif. Faut essayer de garder du bon sens. Alors là, ce qui va être préconisé, ça va être pour tout ce qui est courses non réfrigérées. Bah pourquoi pas les laisser à l'air libre, voilà, on sait que le virus peut rester plusieurs heures, on parle de 3 heures sur des objets, donc voilà, le laisser à l'air libre les produits, éventuellement passer un essuie-tout à usage unique humide sur les produits, et pour tout ce qui est réfrigéré, bah pareil, vous passez un essuie-tout à la rigueur humide sur les produits, vous enlevez aussi tout ce qui est sur-emballage. Et vous stockez au réfrigérateur, hein. Faudrait pas non plus avoir des problèmes si on stocke des produits réfrigérés à l'extérieur. Donc ça, c'est important. Faut pas rentrer dans l'excès, ne pas utiliser des produits à usage ménager pour nettoyer des denrées alimentaires. Faut vraiment rester dans le bon sens et ne pas utiliser ces produits avec excès.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
9h13 sur Radio Plus, vous êtes toujours dans Fréquence Association et ce matin, nous parlons de la pollution de l'air et notamment de l'air intérieur en compagnie de Corentin Job, conseiller médical en environnement au sein de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique et en compagnie de Julien Maille de Radio Plus.
Alors ma question suivante n'est pas directement liée à l'épidémie de coronavirus, mais on voit de plus en plus des particuliers qui fabriquent leurs propres produits ménagers pour essayer de contrer un petit peu la toxicité de certains produits fabriqués de manière industrielle. Est-ce que c'est une solution viable pour notre santé?
Alors, c'est toujours pareil en temps normal, nous on favorise, on conseille ce genre de choses, ce genre de pratiques. Hein. On va en fait tout simplement, c'est pareil, c'est du bon sens. Malgré le marketing assez agressif à ce niveau-là, au niveau des produits ménagers, nous on va conseiller de limiter au maximum les produits ménagers, notamment éviter les produits qui sont parfumés, car ce sont des irritants respiratoires. Donc notamment, on le disait tout à l'heure, chez les personnes qui sont sensibles au niveau respiratoire. Donc voilà, limiter au maximum les produits parfumés, les produits aussi qui contiennent des pictogrammes de danger. Alors oui, il existe des produits naturels, entre guillemets, hein, le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, qui peuvent être très utiles en temps normal pour réaliser le ménage et qui ont déjà aussi moins d'effets, entre guillemets, néfastes sur la santé. Et aussi un effet positif sur le porte-monnaie parce que ça coûte pas grand-chose. Mais faut savoir que contre le Covid, par exemple, le vinaigre blanc n'est pas efficace. Hein. Il n'est pas virucide, donc il ne va pas tuer le Covid. Donc si on entreprend de désinfecter actuellement son logement avec du vinaigre blanc, faut savoir que ça ne va pas être efficace contre le Covid. Mais oui, globalement, on va vraiment encourager les personnes à utiliser des produits naturels et moins émissifs pour voilà hein, pour éviter les impacts sur la santé. Mais voilà, faut savoir que pour le Covid, on va peut-être justement privilégier les désinfectants classiques, mais toujours en gardant à l'idée qu'il faut pas les utiliser en excès. Voilà. Mais oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée de fabriquer ces produits en temps normal.
Et le temps normal, oui, le temps normal, justement, on y revient parce que, effectivement, vous informez aussi sur la période du temps que l'on qualifiera de normal, sur des petits conseils pour améliorer l'air intérieur au sein des logements. Vous avez d'ailleurs entrepris, il y a quelques jours, plusieurs initiatives avec l'apparition de deux publications sur votre site internet, des fiches pratiques pour améliorer son air intérieur. Une conférence en ligne qui a également été proposé le 10 avril dernier. Rappelez-nous un petit peu ces initiatives, Corentin Job.
Oui, bah c'est ça. Nous aussi, on est en confinement en fait actuellement. On a pas mal d'actions qui ont été stoppées. En temps normal, c'est toujours pareil. On fait des formations, formations de professionnels relais sur différentes thématiques, notamment l'air intérieur. Mais aussi, on intervient à domicile chez des patients qui souffrent de pathologies respiratoires. Donc là, pour le moment, tout est en stand-by, donc on a essayé de proposer des choses qui pouvaient être adaptées aussi à la situation. Donc on a mis en place notamment un webinaire qui est une conférence en ligne, webinaire grand public sur la qualité de l'air intérieur, pour expliquer en fait, pour reprendre un petit peu tous les principaux conseils justement pour préserver l'air intérieur de notre logement. Alors en période de Covid, mais en temps normal aussi en fait, les principaux conseils qui nous permettent d'éviter les émissions de polluants et de respirer un air plus sain. Et éventuellement aussi, je vous invite à vous rendre, si vous n'avez pas pu assister à ce webinaire, à vous rendre sur notre site internet, donc www.appa.asso, donc a2so.fr. Donc dans la rubrique se former et s'informer et l'onglet documentaire, vous avez pas mal d'informations. Notamment les 10 sources, 10 conseils pour préserver l'air intérieur, des conseils pour les personnes qui sont allergiques aux acariens, etc. Donc je vous invite à vous rendre sur notre site pour faire un peu de lecture. On a un peu de temps ces temps-ci, donc ça peut être un moment propice à tout ça. Donc on a essayé à travers ces différentes initiatives essayer d'informer les personnes différemment d'habitude, hein, parce qu'on peut plus aller sur le terrain, donc voilà, à distance, et ça a été plutôt un succès par rapport à tout ça.
Alors pour terminer, Corentin, quels conseils on peut donner de bon sens à appliquer en temps normal en ce qui concerne l'aération du logement, en ce qui concerne la fréquence du ménage par exemple? Quels conseils on peut donner à ceux qui nous écoutent pour améliorer au mieux leur air intérieur?
Alors, il y a deux choses sur lesquelles on peut jouer pour essayer d'améliorer l'air intérieur. Tout d'abord, ça va être le renouvellement de l'air. On l'a dit, on est dans un endroit qui est clos, hein, qui est confiné. Ce qui est important, ça va être de renouveler l'air. Alors, comment on va renouveler l'air intérieur de notre logement? Il y a deux façons. En ouvrant les fenêtres, tout simplement. Donc, en aérant. Donc là, les recommandations, ça va être vraiment d'aérer par tout temps, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, etc. Il faut aérer tous les jours, quotidiennement, au moins deux fois par jour. Donc le matin, le soir, voire plus. Hein. Et l'idée, ça va être d'ouvrir ces fenêtres 5, 10, 15 minutes en faisant une chasse d'air, en fait, en ouvrant des fenêtres opposées, un courant d'air, entre guillemets, hein, qui va permettre vraiment de renouveler efficacement et rapidement l'air de notre logement. Donc ça, c'est une première chose. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment indispensable d'ouvrir ses fenêtres. Le matin et le soir minimum, voire plusieurs fois, mais pendant des temps qui sont assez courts, en faisant un courant d'air. Plutôt que, par exemple, en position oscillo-battante, qui va pas être forcément efficace. Alors oui, en été, on peut ouvrir en oscillo-battant, hein, ça peut être utile. Mais pour renouveler l'air, c'est pas forcément ce qu'il y a de très efficace. Donc voilà, l'aération très important. Et en complément, il va aussi avoir la ventilation du logement. Donc la ventilation via le système de ventilation type VMC, hein, qu'on rencontre assez couramment actuellement. Donc là, la ventilation, ça va être vraiment le poumon de notre maison, qui va permettre de renouveler en continu l'air du logement. Donc ça, c'est d'autant plus important parce que depuis les années 70-80, on a isolé nos logements, hein, pour éviter les déperditions thermiques. On a isolé le logement, on a mis du double vitrage, etc. Donc là, on a des logements qui sont entre guillemets sous cloche. Donc on doit compenser en ayant un système de ventilation qui est efficace et qui va permettre de renouveler l'air de notre maison. Donc ça, c'est important, le renouvellement de l'air. Donc aérer en ouvrant les fenêtres. Pour le système de ventilation, ben, ça va être important de ne pas boucher les bouches d'entrée et de sortie d'air. Et aussi de les dépoussiérer, parce que si le système est efficace, il va avoir tendance à s'encrasser de poussière, de particules. Donc là, on va conseiller de dépoussiérer régulièrement. Donc ça, c'est la première chose, favoriser un renouvellement de l'air. Et après, en deuxième partie, on va plutôt limiter là les émissions de polluants dans notre logement. Donc pour ça, bon, on l'a dit, hein, par rapport aux produits ménagers, on va ne pas utiliser des produits ménagers en excès. Donc ça, c'est valable tout le temps, hein, vraiment, faut avoir du bon sens. Un produit ménager multi-usage, ça, voilà, c'est nécessaire, c'est suffisant pour entretenir convenablement son logement. On va privilégier aussi l'utilisation des microfibres qui nécessitent du coup moins d'humidité, moins de produits pour être efficaces. Voilà, attention aux aérosols. Donc vraiment utiliser avec parcimonie les produits ménagers. Et aussi par rapport à tous ces produits de ce type-là, on conseille de limiter au maximum les parfums d'ambiance, les parfums d'intérieur. Alors quelle qu'en soit la forme, que ce soit des bombes désodorisantes, de l'encens, du papier d'harmonie ou des huiles essentielles aussi, hein. Elles ont une tendance un peu naturelle. C'est vraiment à limiter au maximum parce que ça va rajouter des polluants dans l'air plutôt que ça va pas éliminer les odeurs ou autre. Non, ça va rajouter des polluants dans l'air, des polluants irritants que nous allons respirer. Donc là, vraiment, proscrire l'utilisation de ces parfums d'ambiance. Si on aime bien utiliser une bougie parfumée de temps en temps, c'est pas trop grave, mais il faut savoir que ça émet des polluants et qu'il faut aérer aussi en conséquence. Donc voilà pour ce qui est émissions entre guillemets chimiques, produits ménagers, produits parfumés. Donc ça, c'est au quotidien. Après, c'est vrai que là, pendant cette période de confinement, on a tendance aussi à réaliser des travaux. Donc pour ça, ce qui va être important, ça va être d'isoler au maximum les zones de travaux pour éviter que l'empoussièrement s'étende dans les autres pièces. Ça, ça va être important. Se protéger aussi, même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de trouver des masques, essayer de se protéger au maximum en période de travaux et préférer le choix de matériaux qui sont moins émissifs avec un étiquetage A+, là, vous le verrez sur notre site internet, pour tout ce qui est travaux. Donc voilà pour les émissions chimiques. Après, bon, on pourrait passer beaucoup de temps dessus, hein, mais il y a le tabac aussi. C'est vrai que là, en cette période de confinement, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont plus tendance à en fumer à l'intérieur. Le tabac, c'est toujours le premier polluant de l'air intérieur, d'après l'Académie de médecine. Donc voilà, même en période de confinement, hein, ne pas fumer à l'intérieur, c'est bon. De préférence, ne pas fumer du tout, hein, mais voilà, ne pas fumer à l'intérieur, c'est super important. On pense notamment aux personnes qui sont exposées au tabagisme passif, exclusivement à l'extérieur pour tout ce qui est tabagisme. Voilà. Et puis ensuite, bah, l'empoussièrement, hein, par exemple, éviter au maximum l'empoussièrement. On trouve pas mal de choses dans la poussière, des acariens, des bactéries, des moisissures. Donc là, on va conseiller de dépoussiérer au maximum le logement, limiter les niches à poussière aussi, tapis, moquettes, etc. En temps normal, on préconise l'aspirateur. Alors là, concernant l'aspirateur, si en tout cas, s'il y a des personnes qui sont contaminées au Covid, on va déconseiller l'aspirateur et plutôt privilégier, donc ça c'est en temps normal aussi, on privilégie une microfibre humide. Ça va être très efficace pour dépoussiérer le logement et éviter de remettre en suspension les poussières comme pourrait le faire un balayage à sec classique. Voilà, donc ça, c'est les principaux conseils, hein, pour éviter les polluants à l'intérieur. Mais je vous invite vraiment à aller faire un petit tour sur notre site internet et à vous renseigner là-dessus.
Et direction, effectivement, le site internet de l'APPA, www.appa.asso.fr. Merci beaucoup, Corentin Job, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes conseiller médical en environnement intérieur et chargé de projet au sein de l'APPA Antenne des Hauts-de-France, l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Merci à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Ma station, ma région. Non. Radio Plus.
Voilà donc pour ce sujet très intéressant en compagnie de l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Les romances tout de suite sur Radio Plus. Sur Radio Plus, on s'intéresse à présent à l'évolution de la situation concernant la distribution de l'aide alimentaire. Entre 140 000 et 160 000 euros, c'est ce que coûte actuellement tous les mois l'aide alimentaire fournie aux plus défavorisés par le Secours Populaire Français. Un coût qui augmente fortement avec l'arrivée de nouvelles personnes en détresse qui n'avaient jusqu'ici jamais demandé d'aide pour se nourrir à des associations. Une situation qui préoccupe bien évidemment la Fédération du Pas-de-Calais du Secours Populaire Français que j'ai interviewé le mercredi 29 avril. Serge Decaillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais et vous êtes accompagné de Dominique Torres. Bonjour. Vous êtes, vous, trésorier de la Fédération du Secours Populaire du Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous sur Radio Plus. Alors, nous vous avions interviewé Serge Decaillon il y a quelques semaines au début du confinement concernant l'organisation que vous avez dû adopter pour la distribution de l'aide alimentaire aux familles. Quelle est la situation aujourd'hui au sein des secours populaires du département ?
Alors, je confirme que par rapport à la mise en œuvre, en fait, aujourd'hui, nos comités locaux, toutes nos unités tournent, donc elles n'ont pas arrêté, en fait, de distribuer de l'aide alimentaire, avec forcément plus ou moins de facilité, puisqu'on peut comprendre qu'à la fois, il y a des retraits de la part de bénévoles qui sont plus sensibles. Donc, on tourne sur des équipes réduites un peu partout. Mais néanmoins, les amis ont fait tout le nécessaire pour être vraiment présents, être sur place. Et avec quelquefois, et c'est un petit peu regrettable aussi, un minimum d'équipement de protection. Parce que en fait, on a eu, comme beaucoup, des grosses difficultés à obtenir alors à la fois des gants et du gel, mais aussi les masques, parce que ça, c'est très compliqué. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, tout le monde est là sur le terrain à essayer d'apporter le maximum de soutien.
Alors, est-ce que des bénévoles de votre association ont contracté le Covid-19 ? Est-ce que vous le savez ?
Alors, pour l'instant, à ma connaissance, nous n'avons eu qu'une seule personne qui était véritablement infectée, mais qui n'était pas dans le département à ce moment-là. Donc, y compris au niveau de la structure locale, ça n'a pas eu de conséquences, puisque hospitalisée dans un autre département, elle est rentrée donc ici sur Arras dans un premier temps et ensuite chez elle. Et aujourd'hui, la personne va très bien, donc on peut dire que pour l'instant, on n'a pas eu trop d'impact sur cette contamination.
Et alors, concernant l'équipement sanitaire, les masques, le gel hydroalcoolique, les gants, ça s'est amélioré ?
Alors, le gel hydroalcoolique, ça va mieux. C'est vrai que là, on a eu quelques dotations qui nous permettent d'en redistribuer encore de temps en temps. Les gants, nous avons épuisé les stocks que nous avions. Et les masques, j'en parle pas, parce que là, franchement, c'est même pas du compte-gouttes, quoi. C'est vraiment quasiment une matière impossible à obtenir. Donc, on sait pas ce que ça donnera dans les jours et les semaines qui vont venir, puisqu'on entend dire que partout, il devrait y en avoir à disposition. Donc, pour les riverains dans chaque commune, mais aussi peut-être dans les différents points de distribution et de vente. Donc, on verra bien, effectivement, si on peut équiper nos amis. Alors, bien sûr, comme partout, certains sont équipés aujourd'hui de masques qui ont été fabriqués par les uns ou les autres, des couturières, des petites mains qui ont voulu nous aider en fabriquant des masques en tissu. Donc voilà, mais après, sur la qualité ou l'efficacité, bon, personne aujourd'hui n'est capable de dire ce que ça peut avoir comme impact.
Alors, une inquiétude remonte ces derniers jours dans de nombreuses associations, dont la vôtre, Serge Decaillon. En effet, ce sont 25 à 50% de personnes en plus partout en France qui ont demandé une aide alimentaire depuis la mi-mars. Est-ce que vous faites également ce constat sur le terrain de cette augmentation ?
Oui, alors nous, si vous voulez, le fait, c'est que comme on est démultiplié dans le département, puisque c'est 46 structures qui sont à pied d'œuvre, et donc les augmentations sont constatées un peu partout. Alors, je dirais qu'en chiffres, en nombre de foyers supplémentaires, on peut dire aujourd'hui qu'on tourne autour de 400 familles supplémentaires pour ce qui nous concerne dans le département du Pas-de-Calais. Donc, on va dire que ça fait 20% à peu près de demandes en plus, quoi.
Quel est le profil de ces nouveaux demandeurs ?
Alors, c'est un peu compliqué à vous donner vraiment une statistique sur le profil, parce que comme on a ouvert notre accompagnement à toute personne en difficulté, on leur demande pas forcément dès le départ quels sont leurs problèmes. C'est-à-dire que, si vous voulez, comme l'aide alimentaire qu'on fait habituellement, elle est liée, bien entendu, à une situation personnelle, c'est-à-dire qu'on examine avec les foyers, les familles, quelles sont leurs situations, de manière à pouvoir les aider dans la durée. Mais depuis le début du confinement, on a souhaité être sur le terrain pour apporter un soutien à toute personne qui venait le demander. Et donc, en général, on sait que, parce que ça remonte, parce que nos amis discutent avec aussi un petit peu, bien que on limite au maximum le temps de contact, mais néanmoins des personnes qui sont en attente de retrouver un emploi parce que soit étant en contrat, elles ont perdu le bénéfice de leur contrat pendant cette période-là ou au chômage, et donc ces personnes qui, encore là, il y a quelques minutes, quelqu'un appelait en disant jusque maintenant, j'avais pas fait de demande, mais là, ma situation fait que je vais devoir avoir recours à vous. Donc c'est un peu, je dirais, on peut pas donner un profil type, mais néanmoins, bon ben, on sait que c'est les difficultés du moment qui augmentent ces besoins.
Et donc des gens qui demandent une aide alimentaire pour la première fois de leur vie, en fait, est-ce que vous donnez justement des consignes particulières aux équipes qui les prennent en charge?
Alors, on fait, c'est que effectivement, de toute façon, on a recentré, compris l'aide alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des produits essentiellement courants, c'est-à-dire que alors bien entendu, si on peut quelquefois obtenir des dons de produits, je dirais, périssables, mais qui sont dans, bien sûr, de bonnes conditions de consommation, mais on cible par rapport à nos stocks, à nos ce qu'on a comme possibilité, des produits essentiellement donc durables, c'est-à-dire des conserves, des produits secs, quand on peut encore aujourd'hui des pâtes, du riz, enfin des céréales d'une manière générale. Donc ce qu'on essaye de faire avec nos équipes, c'est d'être au plus proche des besoins par rapport à la composition familiale. C'est-à-dire que, si vous voulez, jusque maintenant, on était plus sur une composition globale d'une aide mensuelle par rapport à des familles, à des foyers. Là, on est plus sur une aide, alors je ne vais pas dire individuelle, mais appropriée, je peux dire, à la composition des familles, de manière à justement être plus, plus pragmatique sur par rapport aux besoins de chacune et de chacun selon le nombre de personnes au foyer. Et c'est parce que comme on a multiplié les distributions alimentaires, ce qu'on veut aussi bien sûr, c'est tenir dans la durée, parce que je dirais qu'actuellement, on fera le point dans quelques jours, on peut pas encore savoir combien de temps on tiendra avec nos stocks après, une fois que la situation sera revenue à la normale. Et on sait pas encore non plus comment au besoin on pourra financer dès que les possibilités existeront, comment on pourra financer de l'achat de produits pour tenir jusque la fin de l'année, quoi, par exemple.
Alors justement, je vais peut-être me tourner vers Dominique Torres, la présidente du Secours Populaire Français au niveau national, Henriette Steinberg, affirme avoir alerté le ministre des Solidarités, le Premier ministre et le Président de la République à la mi-mars sur justement cette augmentation considérable des demandes. Et jeudi dernier, le gouvernement a annoncé une enveloppe supplémentaire de 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire. Annonce faite par Christelle Dubos, la secrétaire d'État chargée de la lutte contre la pauvreté. Est-ce que c'est suffisant selon vous?
Alors moi, je peux pas me baser, si vous voulez, sur le national. Je vais travailler au niveau du département. Il faut savoir que nous, une distribution alimentaire comme nous sommes en train de les faire, nous coûte actuellement entre 70 000 et 80 000 euros. Nous en faisons deux par mois depuis le 15 mars. Et en face de ça, évidemment, ces colis, dans l'urgence, actuellement, on demande aucune participation aux bénéficiaires, ce qui fait que on a une ligne dépense qui va à fond la caisse, on va dire,
ouais.
Et on n'a aucune recette. Alors, on vit éventuellement, on réussit parce qu'on a des associations, des entreprises qui veulent bien nous aider. Par exemple, Groupama vient de nous verser une somme de 10 000 euros. La SANEF nous a versé une somme de 650 euros. Le Secours Populaire National a effectivement eu une enveloppe, a commencé à avoir des enveloppes au niveau national et nous a reversé 20 000 euros. Et vous vous rendez bien compte que ces sommes-là ne nous permettront pas de tenir longtemps. D'ailleurs, si vous regardez un peu à droite et à gauche, il y a quand même des départements, enfin des sections départementales du Secours Populaire qui sont en train de dire, dans peu de temps, on met la clé sous la porte. Pour vous dire que, effectivement, la situation est grave. Maintenant, les fonds débloqués, on les attend avec impatience, on verra bien ce que ça va donner. Nous, pour l'instant, notre objectif prioritaire étant d'aider les gens au maximum. Comme vous a dit Monsieur de Caillon tout à l'heure, les bilans financiers, même si on les fait au compte-gouttes, on sait qu'on peut tenir pour l'instant, mais on tiendra plus très longtemps. Mais on attend tous les chiffres et tout ce qui va se passer après, parce que pour l'instant, nous sommes dans le flou, le plus complet.
Quand vous dites que vous ne tiendrez plus très longtemps, vous l'estimez concrètement à combien de temps?
On a notre réserve perso, enfin notre réserve départementale, on va dire. Quand je vous dis 70 000 par distribution, deux distributions par mois, 140 000. Dans deux mois, on dit c'est bon, quoi.
Donc ça, c'est évidemment une grande source d'inquiétude pour vous, d'autant que, comme l'expliquait Serge Decaillon, d'autant que effectivement l'aide alimentaire, c'est toute l'année, et ce n'est pas seulement en cette période de pandémie.
Et comme vous expliquiez tout à l'heure, Monsieur Decaillon, notre augmentation de suite, à, on va dire, à la crise, c'est 20%, c'est 400 familles, ce qui fait que, vous voyez, on a quand même, tout le reste de l'année, on a quand même pas mal de clients, on va dire, pour rester comme ça. Donc, effectivement, oui, si on n'a pas d'autres solutions pour être alimenté, on ne sait pas comment on va faire.
Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/radioplus62. Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
9h passées de 41 minutes sur Radio Plus et nous sommes toujours en compagnie de Serge Decaillon, le président de la Fédération du Pas-de-Calais du Secours Populaire Français, et de Dominique Torres, trésorier de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais. Vous faites également depuis plusieurs semaines des appels aux dons, hein.
Oui. J'allais préciser, si vous voulez, par rapport à votre question sur les fonds nationaux, que dès le départ, quand la crise a été annoncée, la demande qui avait été faite, qui a été formulée par notre Union nationale, c'était d'avoir 10 millions d'euros mis à disposition par l'État français. Mmh. Et depuis, Henriette Stenberg avait revu un peu les chiffres à la hausse, puisque c'était 15 millions qui semblaient nécessaires pour passer ce moment de crise. Et quand on peut imaginer que, si vous voulez, sur les 4 grandes associations, et quand je parle des 4, en fait, il y a aussi toutes celles et les petites associations derrière qui sont aussi à pied d'œuvre, les 39 millions, effectivement, ça semble pour l'instant un peu faible par rapport aux besoins que les uns et les autres vont exprimer. Et quand je dis qu'ils vont exprimer, c'est que, comme vient de le faire le trésorier, l'exprimer, mais à court terme, parce que ce qu'on souhaite, bien entendu, c'est de ne pas se trouver dans une situation où, à un moment donné, la question du financement sera primordiale par rapport à l'accompagnement solidaire. Oui, donc, on a véritablement besoin aujourd'hui de trouver des nouvelles sources de financement. Alors, on vous a cité quelques exemples de ressources pour l'instant. Elles sont pas nombreuses. Ce que je peux vous préciser quand même aujourd'hui, donc, grosso modo, comme ça a été chiffré pour les produits que nous avions qui sont stockés, qu'il nous faudra donc reconstituer. Mais on peut aussi ajouter que globalement, pour le département, les donateurs matériels, on peut chiffrer autour de 100 000 euros les dons matériels, c'est-à-dire les produits qu'on a pu obtenir en plus et qui ont été distribués. Donc vous voyez que actuellement, on peut estimer autour de 250 000 euros environ, depuis le début de la crise, l'aide alimentaire apportée dans le département.
Alors, certains évoquent, le mot est fort, de possibles émeutes de la faim, un terme qui aurait été employé, d'après Le Canard enchaîné, par le préfet de Seine-Saint-Denis le 18 avril dernier. Est-ce que ça relève, d'après vous, du fantasme ou est-ce que ça pourrait survenir, ce genre de choses?
Alors, je dirais que c'est tout est une question de combinaison des situations. On a craint, je dirais plus au début de la crise, quand on voyait que dans les magasins déjà, quasiment, il y avait eu des émeutes, entre guillemets, et puis certains rayons qui se vidaient avec des échauffourées dans les magasins. J'avais même à l'époque dit aussi à chacun de prendre des précautions parce qu'on ne savait pas si effectivement le comportement des personnes, des familles, allait nous amener à devoir prendre d'autres dispositions. Ça ne s'est pas passé jusque maintenant. Et ce que je dirais, c'est que ce qu'on vient de donner comme élément vont contribuer à ce qu'il y aura ou pas véritablement des risques d'émeutes ou des risques de soucis. Parce que vous comprenez bien que si nous ne sommes plus en mesure de distribuer une aide alimentaire à celles et ceux qui en ont le plus besoin, et si par ailleurs les tarifs ou les produits se raréfiant, les tarifs augmentent et que déjà les difficultés financières existent et qu'elles sont renforcées par le manque de moyens pour acheter des produits dans la distribution courante, il pourrait arriver que une situation véritablement se devienne un peu extrême. Pour l'instant, je pense pas, et si effectivement on est suivi et écouté, je pense que cette situation-là peut être évitée.
Alors le Premier ministre a présenté hier son plan de déconfinement. Est-ce que le déconfinement tel qu'il est imaginé pourrait pour vous changer la donne, ou est-ce que vous estimez que de toute façon l'aide alimentaire va perdurer bien au-delà du déconfinement?
Alors, forcément, elle va effectivement perdurer au-delà du déconfinement. Alors, ce qu'on peut aussi apporter, parce que je dirais de fort de l'exemple qu'on avait vécu en 2008 ou en 2009, selon ce que la position qu'on prend par rapport à la crise, c'était pas dans les tout premiers jours qu'on avait vu la grosse difficulté, mais forcément au fil du temps et les mois passants, on avait confirmé qu'il y avait eu ces besoins, cette augmentation de besoins. Et je pense qu'on peut dire que cette période-ci sera un peu la copie conforme. C'est-à-dire que dans les semaines et les mois qui vont venir, malgré le déconfinement, les familles qui seront en difficulté, y compris peut-être parce que certaines aujourd'hui n'oseraient pas encore véritablement sortir pour venir à notre rencontre, vont venir automatiquement dans les jours qui viendront, parce que on peut comprendre que celles et ceux, et on sait d'ailleurs que souvent c'est le cas, c'est que tant qu'on a encore un peu de moyens financiers, on se débrouille, ou on arrive à se débrouiller, y compris avec sa famille autour, ou avec des personnes de bonne volonté, mais arrive un moment de toute façon où la situation est telle que l'appel à la solidarité donc se fait automatiquement. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui que dans les semaines qui suivront le déconfinement, on aura une inflation encore de la demande.
Dernière question, comment peut-on faire pour vous aider actuellement ?
Alors, donc là, c'est clair, je veux dire que s'adresser donc à nous, au siège départemental Fédération. Alors, encore une fois, si des entreprises, alors on en a contacté beaucoup, bien entendu, alors qui sont peut-être aujourd'hui bloquées toujours par le confinement ou par le manque d'activité, mais qui, pour certaines, nous ont déjà répondu que dès qu'elles pourraient faire un geste, elles allaient y regarder. Donc, forcément, des entreprises qui pourraient nous aider alors sur, je disais, les denrées, parce que ce sera l'essentiel de l'après-confinement, constituer des stocks qui nous permettront de tenir dans le temps, et bien sûr des dons financiers qui nous permettront, le cas échéant, y compris, je pense que l'aide de l'État, c'est aussi dans cet objectif-là, c'est de relancer la machine, c'est de se dire que dès que les fournitures seront disponibles, on pourra donc à nouveau demander, puisque vous avez compris que quand on fait des commandes, ce seront des chiffres relativement importants. Je dis souvent, nous, c'est un multiple de 3000, quoi. Quand c'est des litres, il faut 3000 litres, quand c'est des kilos, il faut 3 tonnes. Donc, vous voyez, c'est pas évident pour un donateur, parce qu'il ne peut pas s'imaginer ses montants ou ses volumes, en mettant bout à bout tous les accompagnements, c'est comme ça qu'on y arrive. Alors ensuite, bien entendu, si des personnes souhaitent s'investir, alors on est là aussi dans une grande rigueur, c'est-à-dire qu'on a intégré des nouveaux bénévoles, parce que forcément des personnes souhaitaient s'investir et on les a intégrés, ne serait-ce que quelquefois pour les proximités que ça représentait. Mmh. Et donc, on a permis comme ça de développer aussi un peu dans des secteurs qu'on appelle quelquefois zones blanches de l'accompagnement. Mais bien entendu, toute personne qui souhaitera nous rejoindre, faire du bénévolat, sera la bienvenue aussi, parce que l'après, ce sera aussi ce qu'on pourra mettre en œuvre qui nous permettra de faire des rentrées financières supplémentaires. Alors je vais prendre un exemple qui est tout simple et on espère maintenant, je suis pas superstitieux, je croise les doigts, on avait prévu de faire une grande fête départementale au mois de juin, une grande fête des solidarités avec toutes les associations qui auraient voulu participer et bien entendu toutes les collectivités qui pouvaient nous y aider. On avait déjà sur le principe les accords de la région, du département et de la ville de Béthune qui nous accueillaient. Donc on veut la reporter parce que je pense qu'y compris il y aura besoin de ce genre d'événement à la rentrée après que la situation sera un peu plus claire. Donc on voudrait au mois de septembre pouvoir organiser cette grande fête des solidarités et on espère que si elle peut se tenir, ce sera un des éléments qui nous permettra de reconstituer financièrement un petit peu donc de ressources et de réserves de manière à pouvoir appréhender la fin de l'année. Et deuxième chose, on est sur une expectative et je ne sais pas trop ce qui se passera. On avait prévu au mois d'août donc notre journée des oubliés des vacances, comme tous les ans. Mmh. Celle-ci devait se dérouler à Bagatelle et on peut craindre aujourd'hui par rapport à la situation et ce qu'on entend dire sur les rassemblements, sans parler de grands rassemblements, mais les rassemblements, on aura des difficultés de mettre en œuvre cette journée. Donc il est clair aussi qu'on va chercher des possibilités de faire profiter, dès qu'on saura comment la circulation des personnes pourra se faire, donc à trouver différents lieux. Alors ça pourra être, pourquoi pas, des séjours de vacances pour les enfants ou des séjours pour les familles. Mais là, encore une fois, j'anticipe parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans les semaines qui viendront. Mais toute aide de cette manière-là serait la bienvenue, c'est-à-dire que celles et ceux qui connaîtraient ou qui seraient même opérateurs un tourisme ou la proximité comme celle-là, peuvent nous aider aussi parce que on essaiera, je dirais, dans la mesure du possible, de mettre la meilleure adéquation entre les propositions qui nous seront faites et les besoins, bien sûr, qu'on aura recensés.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Decaillon. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais. Et merci également à vous, Dominique Thorez. Vous êtes, vous, trésorier de la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup à vous, merci pour votre soutien et merci donc aux auditeurs qui nous rejoindront d'une manière ou d'une autre. Et puis prenez bien soin de vous tous.
Et pareillement, on vous fait évidemment le même souhait et on vous souhaite évidemment bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, et puis si vous souhaitez contacter la Fédération du Secours Populaire Français du Pas-de-Calais, vous pouvez téléphoner au 03 21 71 43 19. Je répète, le 03 21 71 43 19. Voilà, c'est la fin de Fréquence Association. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Radio Plus, le www.radioplus.fr. Très bonne matinée à toutes et à tous sur Radio Plus.